de cette ségrégation. Et en gros, Green Dock, c'est une gigantesque muraille de Chine, on l'a dit, hein, c'est deux stades de France posés côte à côte. Et ça séparerait les Hauts-de-Seine, département relativement privilégié, de la Seine-Saint-Denis, département relativement populaire. Et c'est vraiment un symbole, c'est le symbole de la séparation. Du côté de la Seine-Saint-Denis, du côté de la banlieue nord, on met tout ce qui gêne, c'est la poubelle de Paris en quelque sorte. Et du côté du 92 et de Paris, eh ben, on a la vie gentille avec tous les colis qui arrivent gentiment 4 heures après qu'on les ait commandés. Et puis peut-être même une Seine baignable sur l'île de la Cité. Ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça, il y a des gens qui vivent partout, en petite couronne, en grande couronne, et il faut que tous les endroits restent vivables.
Alors, cette banderole, il y a quoi d'écrit dessus ?
Mettons fin, l'Anthropocène.
Et est-ce que tu as envie de nous dire un peu pourquoi vous êtes là avec cette banderole ?
Eh ben parce qu'on se bat contre un nouvel âge qui est l'âge des entrepôts. Tout le monde connaît l'Anthropocène qui est l'âge de l'homme, et avec l'âge de l'homme est arrivé l'âge des entrepôts, c'est-à-dire l'augmentation des flux logistiques, l'augmentation de la production de biens manufacturés, qui fait qu'à l'arrivée, pour acheminer tout ça, il faut de plus en plus de flux logistiques, il faut de plus en plus de routes, de plus en plus de camions, des bateaux de plus en plus grands, des porteurs, et donc des entrepôts. Voilà, d'où l'Anthropocène. L'âge de l'entrepôt auquel il faut mettre fin si on veut changer un peu le modèle de société. Et puis, tout le monde le reconnaît, les entrepôts, personne n'en veut à côté de chez lui. C'est moche, c'est gris, c'est immense. Pourquoi l'imposer aux gens qui ne peuvent pas se défendre ? Voilà.
Bah merci. Est-ce que vous faites partie d'un collectif en particulier ? Ou pas ?
Moi, je suis venu soutenir les camarades de l'Île-de-France. Je suis plutôt des Hauts-de-France. On se bat contre le méga canal Seine-Nord-Europe. Qui est lié avec cet âge des entrepôts, hein, parce qu'on sait qu'à côté de ça, il y aurait des ports intérieurs, donc aussi d'autres zones logistiques, des entrepôts. Donc de manière générale, on se bat contre l'empire logistique.
Voilà. Merci beaucoup.
Pierre Parot, du collectif Méga Canal Non Merci.
Et donc tu es un militant qui lutte contre ce méga canal, c'est en fait le canal Nord-Seine, c'est ça ?
Oui,
alors, est-ce que Seine-Nord, c'est ça ?
Oui. Ouais.
Est-ce que tu nous dirais un peu deux mots de ce projet de canal ?
C'est un projet complètement dépassé qui visait à relier les ports du nord de l'Europe avec la région parisienne en promettant d'enlever des camions sur l'autoroute A1. Ça se révèle complètement illusoire et comme il est très comme ces travaux sont très destructeurs, ce sont les plus grands travaux que la France ait connus, avec 78 millions de mètres cubes de terre remuée. Donc c'est très destructeur pour l'environnement et économiquement, ça ne sert qu'à des gros céréaliers pour l'export massif de céréales.
En direction de Rotterdam, c'est ça ?
En direction de les céréales, c'est en direction du port de Rouen, qui est le premier port céréalier d'Europe, pour l'export vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Mais attends, parce que du coup, ce canal, en fait, il va de où à où ? Il n'existe pas encore ? Ou il est juste redimensionné, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il existe un canal qui s'appelle le Canal du Nord, qui est à gabarit intermédiaire, pas tout petit, mais pas très grand non plus, qui peut transporter, qui peut faire passer des bateaux de 900 tonnes.
Alors que il relie de où à où, celui-là ?
La même chose, hein, il relie de Compiègne au réseau du Nord, qui s'appelle Dunkerque-Esco, c'est les canaux du Nord de la France. Et quand je dis par de Compiègne, en fait, il utilise aussi l'Oise. Depuis Paris, c'est l'Oise qui rejoint Compiègne.
Et donc, celui-là, il serait agrandi de façon à laisser passer des beaucoup plus gros gabarits, c'est ça ?
Ce n'est pas tout à fait un agrandissement parce que ce n'est pas possible de passer au même endroit. Ce n'est pas du tout le même profil. Le canal actuel, il a 19 écluses. Le, le projet, lui, il n'en a que 6. Donc c'est pour ça que ça remue tant de terre, parce que ce n'est pas du tout le même profil. Ça monte haut et ça descend bas. Il est creusé et surélevé.
Donc c'est des gros travaux qui sont... Ils sont en cours, là, ces travaux-là.
Ah non, heureusement, ce qui est en cours, qui peut tromper, ce sont des travaux préparatoires qui sont au nord de Compiègne, qui sont déjà très impressionnants, qui ont déjà beaucoup détruit d'environnement, mais qui servent à faire la place au canal. Donc ça a consisté, c'est assez étonnant, à déplacer l'Oise actuelle, l'Oise, sur 4 km de son cours de quelques centaines de mètres.
Ah oui, c'est des travaux qui sont vraiment énormes, en fait, quoi.
C'est déjà des travaux énormes, mais nous, on tient à dire que ce sont des travaux préparatoires. Le canal lui-même, il n'est pas commencé et on essaie de l'empêcher de démarrer.
Et donc, on comprend bien que ce projet de canal, il fait partie d'un grand projet d'infrastructure au niveau français, voire européen, de transport, de marchandises et de flux. Et donc, oui. C'est logique que tu sois présent là, à la lutte contre le Green Dock, en fait.
Ah ben, on est très proches. On travaille ensemble avec Green Dock, avec Stop Green Dock et avec les bassines aussi, parce qu'on est aussi face à un projet qui remue beaucoup d'eau. J'ai parlé de la terre, mais il y a aussi beaucoup de millions de mètres cubes d'eau qui sont monopolisés, pas toujours consommés, mais en tout cas mis de côté, évaporés, etc. Et puis, ça, c'est le premier aspect, c'est l'eau, mais il y a aussi les conteneurs, l'aspect logistique, parce que j'ai parlé des céréales, mais l'autre grand aspect de ces projets-là, et de celui-là en particulier, c'est le transport de conteneurs. Donc, c'était ce qui était promis pour remplacer l'autoroute A1. Mais malheureusement, ou tant mieux, le canal est prévu pour transporter des gros bateaux de conteneurs, mais sur l'Oise et puis au nord, malheureusement pour eux, ça ne passe pas. Les ponts sont trop bas. Donc c'est un peu bancal l'histoire, puisque même leur but conteneur n'est pas tenable.
D'accord. Alors comment on fait pour suivre cette lutte et vous rejoindre si on le souhaite? On peut marcher si tu veux.
Eh bien, le mieux, c'est de... On a pris une adresse très, très courte, un megacanal.org. Et là, on trouve tout. C'est un carrefour de toute l'information. Je répète, megacanal.org. Okay.
Et pour les prochaines échéances que vous avez, vous, qu'est-ce que vous avez un peu prévu sur ces prochaines mois et années
Il y a une toute prochaine échéance, c'est ce qu'on a appelé la fête de l'eau à Compiègne, au bord de l'Oise. Samedi prochain, 1er juin, avec, on espère, beaucoup de monde qui est déjà là aujourd'hui pour Tom Green Dock. On espère aussi qu'ils viennent à Compiègne samedi prochain.
D'accord, très bien.
C'est très festif, à base de concerts, mais aussi de stands d'information.
Okay. Super, bah, merci, on se tiendra au courant.
Merci.
C'est dégueulasse, méga canal, c'est dégueulasse, méga canal, c'est dégueulasse, méga canal, c'est dégueulasse.
Je suis avec Hervé de l'ULCGT de Gennevilliers, ULCGT qui s'est engagé contre ce projet Green Dock, ce qui n'était pas forcément du point de vue de la CGT la chose la plus évidente. Est-ce que tu peux nous préciser un peu la position que l'ULCGT, en tant que syndicat qui syndique, on sait, beaucoup de personnes logistiques, a eu vis-à-vis de ce projet Green Dock?
On en a discuté et c'est vrai qu'au début, il y a des camarades qui ont eu des doutes sur le bien fondé de s'engager dans l'opposition au projet, parce qu'il y a toujours cette question du chantage à l'emploi. Ce genre de projet, systématiquement, est vendu comme créateur d'emplois. Alors, on a parlé de 700 emplois, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui croient le moins à ce mirage-là, à ce chantage à l'emploi, c'est déjà les ouvriers de la logistique eux-mêmes qui vont dire « Mais nous, même si on crée 700 emplois, on ne souhaite pas aux gens de travailler dans les conditions dans lesquelles nous, on travaille. » C'est-à-dire des emplois précaires, le racisme, la dangerosité au travail, la précarité, etc. Et du coup, dire « Ok, le projet vaut le coup parce qu'il y a quand même 700 emplois à la clé », ça veut dire être résigné, être passif dans notre manière d'agir sur la société, d'agir pour une autre manière de travailler, etc. Et s'opposer au projet Green Dock, c'est dire « Bah non, nous, entre guillemets, on prend le risque de refuser ces 7 ans d'emploi parce qu'on veut se battre pour quelque chose de mieux. » Et c'est un peu le quotidien de l'action syndicale, c'est-à-dire que le chantage patronal, même en entreprise, il est permanent, de nous proposer des miettes en disant bah, « Prenez ces miettes-là parce que si vous les refusez, vous n'aurez rien d'autre. » Et c'est à peu près la même logique, cette fois à l'extérieur des murs d'une entreprise.
Et ce qui est intéressant, là, justement, ce que tu dis, c'est que, du coup, les ouvriers de la logistique eux-mêmes n'ont pas eu un rapport uniquement comptable à l'emploi, mais un rapport de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi un emploi de la logistique actuellement? Ça veut dire quoi bosser dans un entrepôt de la logistique, quoi? Est-ce que premier Green Dock, en fait?
Bah, ça veut dire de la sous-traitance en cascade. Par exemple, sur le port de Gennevilliers, vous avez des installations avec un gros panneau Géodis dessus. Mais en réalité, quand vous entrez dans cet entrepôt, vous avez 250-300 personnes, mais elles-mêmes divisées en une dizaine de sociétés d'entreprises, avec à chaque fois quelques dizaines de salariés, ce qui permet une plus grande flexibilité, ce qui permet de faire disparaître et apparaître des raisons sociales en fonction des besoins, en fonction de la perte ou du gain d'appel d'offres, ce qui permet aussi de minorer le droit syndical, parce que dans les entreprises de moins de 11 salariés, vous n'avez pas de CSE. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous avez un CSE, mais qui, en termes de moyens et de personnalité morale, est réduit à la portion congrue. Donc ça, dans un domaine qui est très compétitif, qui tire vers le prix le coût du transport, le coût de l'acheminement du colis, et bah forcément, celui qui en paye le prix, c'est le travailleur qui est payé au SMIC, qui ne connaît que l'emploi précaire, etc.
Du coup, ce qui est intéressant, ce que tu nous dis, c'est qu'une plateforme logistique, elle fait du flux de marchandises qui rentrent et qui sortent. Mais en fait, elle fait aussi du flux de salariés d'intérimaires qu'on peut prendre et relâcher. Et on imagine bien qu'une plateforme logistique comme ça, de deux stades de France, ce ne serait pas, comme tu dis, une seule énorme entité qui aurait 700 employés, mais en fait, simplement la coquille dans laquelle pourrait s'épanouir une multitude d'entreprises de logistique. C'est ça le truc?
Oui, parce que c'est un modèle économique qui est basé sur la variation, sur la flexibilité. Parce que déjà, la logistique, c'est un secteur qui est très saisonnier. Les vacances d'été, Noël, le week-end, etc. Et du coup, il y a besoin d'avoir une flexibilité de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de CDD, beaucoup d'intérim, beaucoup de travailleurs étrangers aussi. On aime bien aussi embaucher les gens qui sortent de prison et qui sont un peu pris à la gorge en termes de conditions de travail. Et du coup, tout le modèle est basé là-dessus. Et on a beaucoup de gens qui sont licenciés des entreprises de logistique. Et à l'entretien, on leur dit juste « Ah non, désolé, mon pauvre, c'est juste qu'on a perdu le marché des casinos des Hauts-de-Seine, le marché Ikea de la Somme. Et du coup, bah voilà, on est obligé de supprimer ton poste et on n'a rien d'autre pour toi. »
Alors, on est toujours dans le cortège du samedi 25 mai. Et là, on est les fesses dans l'herbe. Est-ce que tu peux nous dire où on est?
Alors là, on est, il me semble, encore à peu près sur Gennevilliers. Et on est sur les voies du tram qu'on a, entre guillemets, bloquées, du coup. Et le but, c'est de, bah, comme tout le reste de la manifestation, c'est de manifester contre Green Dock. Le projet, et voilà quoi, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est absolument pas acceptable de faire ce projet-là. Voilà, des raisons environnementales, sociales, que peut-être on peut peut-être pas développer maintenant, mais il y a plein de raisons, vraiment beaucoup, beaucoup. C'est des sujets vraiment très importants, et je pense que c'est des sujets qu'il faudrait développer et qu'il faudrait partager à tout le monde, et pas seulement aux gens qui veulent s'y intéresser, mais aussi sur des plus grands publics. Voilà.
Et juste du coup, peut-être, vous êtes de l'Île-de-France, vous êtes venu en voisine ou vous êtes venu de loin?
On vient de Bretagne, on vient de Rennes, et Normandie un peu, on va dire. Et voilà, on a profité, enfin, on suit les soulèvements de la Terre depuis un an et demi, deux ans, et puis beaucoup d'autres, d'autres collectifs qu'il y a aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça qu'on fait ça.
Merci, bah, je crois qu'on va aller voir ce qui se passe pour la suite de l'action. Ça vaut peut-être le coup d'expliquer ce qui est en train de se passer. Il y a une partie de la manifestation qui a essayé de rentrer dans le parc public de Gennevilliers par le côté du parc. Et la police en grande tenue a tout de suite fait faire demi-tour au petit groupe qui était rentré et est actuellement en train de nasser dans le parc une partie des gens qui n'ont pas eu le temps de ressortir.
Est-ce que au fond vous entendez? On va peut-être le faire en deux fois. Alors le 27 juin de l'année dernière, il y a Naël qui avait 17 ans qui a été froidement tué par la police lors d'un contrôle routier à Nanterre. Les révoltes qui s'en sont suivies n'étaient que l'expression d'une colère et d'une rage légitime et juste face à un système de force de l'ordre profondément raciste. Des dizaines d'incendies ont touché des institutions et des mairies, dont celle que vous voyez ici. Alors même si la façade est intacte, l'intérieur de la mairie de l'Île-Saint-Denis est couvert de suie et de poudre. Que l'on se souvienne de cette poudre et de cette suie, que l'on se souvienne de ce feu, pour se souvenir de toutes ces révoltes. À toutes les victimes de violences policières et leurs familles, à toutes celles et ceux qui ont subi une répression brutale et terrifiante de la part de l'appareil judiciaire et des forces de l'ordre assassines, nous adressons notre soutien le plus plein et entier.
Sur le trajet autorisé de la manif, au lieu d'être tous tranquillement dans le parc comme on avait prévu. Il y a environ 200 personnes de la manif qui ont réussi à rentrer dans le parc et une centaine de personnes qui ont réussi à rentrer dans la zone logistique. Et à... Ce qui était prévu aujourd'hui, c'est de bloquer cette zone logistique qui a des routes qui ne servent uniquement à la logistique, qui concentrent Mondial Relais, Carrefour et tout un tas d'autres entreprises qui déversent des colis sur l'Île-de-France et qui construisent toujours de plus en plus de routes. Ce qui était prévu aujourd'hui, c'était de monter des barricades sur ces routes et de les bloquer et de faire que cette route, elle ne fonctionne plus. Ils sont rentrés, ils ont bloqué. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'interpellations. Donc en fait, on a tout de suite, on a comptabilisé 50 camarades en garde à vue. On a un camarade médic qui est parti à l'hôpital. Et par contre, on a toute une partie du cortège, donc plus de la moitié du cortège qui était rentré dans le parc et qu'on a attendu juste avant le pont. C'est pour ça qu'on s'est arrêté, c'était pour les attendre. Et ils ont pu nous rejoindre et ils vont bien.
Never know what happiness is. toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est toujours Zoom Écologie et on vient d'écouter Bob Marley avec Concrete Jungle. Et on va continuer notre petit reportage dans la jungle de Paris et cette fois-ci la jungle verte puisqu'on était sur les bords de Seine avec des naturalistes qui font les inventaires et une découverte de cet espace qui serait en partie quand même endommagé par la construction de ce projet Green Dock. On écoute ça.
Les flics ont été très rapides, très agressifs. Ils ont empêché une partie du cortège, des deux cortèges prévus, de rentrer dans le parc. Donc on a été une centaine, peut-être 150, à rentrer à l'intérieur. Et sur ces 150-200 personnes, il y en a moins de 100 qui ont réussi à vraiment rentrer dans la zone logistique et qui se sont fait violenter par les flics très rapidement. Et sur ces personnes, il y en a 54 qui ont été interpellés, qui sont en garde à vue. Tu voulais insister aussi sur un point que je te laisse faire.
Après un rapide coup d'œil à la presse hier soir, c'est très facile de lire dans les médias que la manifestation a été perturbée par des éléments, etc. On tient vraiment à rappeler que c'était pas une manifestation, c'était une manifaction, que l'entrée dans le parc, elle était prévue, que les trois cortèges, ils étaient solidaires, et que le cortège qui a suivi le parcours de la manif déclarée de la mairie de Gennevilliers à la mairie de Saint-Denis a attendu, dans la mesure du possible, les camarades, et qu'on a fait tout ça ensemble, dans la mesure du possible. C'était pas un élément perturbateur extérieur, c'était pas prévu, c'était ce qui était prévu, c'était ce qu'on voulait faire. Et même s'il y a eu une sorte de raté collectif, on ne veut pas que ce récit qui commence à être repris par la presse, qui est vraiment classique de la manif gentille et les méchants casseurs, c'est pas le nôtre, c'est pas ce qui s'est passé hier. Et c'est ça qu'on voulait rappeler aujourd'hui.
Parce que donc on peut faire quoi, deux groupes du coup. Nous, l'idée c'est de rester sur le chemin du halage de toute façon.
Ouais, voilà, c'est ça, mais juste on avance en deux temps en fait.
Ouais.
Simplement.
Peut-être un premier groupe.
Qui arrive en premier.
Moi j'ai mis une longue vue à disposition, je pense qu'on la posera. On va sûrement entendre le Martin Pêcheur.
J'ai une paire de jumelles à prêter si quelqu'un veut.
Allez-y, hein, si quelqu'un veut les utiliser.
Voilà, mais je peux la faire tomber.
Oui, voilà, ouais. Et j'ai la longue vue. Si on aura la chance d'avoir un petit limicole ou un martin pêcheur qui se pose, on aura la longue vue pour l'observer. Ah, il vient de crier, là. Le martin pêcheur. Ah. Donc voilà, martin pêcheur, c'est la star, hein, ici. Donc on a un site Natura 2000 hein, en face. Donc si vous êtes au courant... Voilà, c'est ça.
Donc là on est épiné et le Green Dock il est juste de l'autre côté voilà, du site Natura 2000.
Green Dock, vous avancez sur le chemin de halage, vous verrez la pointe de l'île Saint-Denis
ouais.
Et c'est juste derrière.
Juste derrière la pointe.
Et là en avançant à 500 mètres.
Les deux bras de la Seine de chaque côté quand même.
Ouais, c'est ça.
Enfin,
c'est ça, c'est ça.
Donc, en fait.
Non.
Il part de la pointe à peu près. Ah, il va au-delà.
C'est au niveau de la pointe, là, on voit le projet, quoi. Donc, en fait, il faut vraiment avancer juste 500 mètres plus loin et on le voit, quoi.
500 mètres, il y a juste le port de Gennevilliers qui est... C'est juste énorme, quoi.
Ouais.
Là, on a l'impression d'être en pleine nature.
Voilà.
Mais il y a des tonnes et des tonnes de containers, il y a 5 d'ars,
Donc, il y a déjà tout ça,
ouais.
Et ils veulent en rajouter.
Entendu, voilà. Il y a légèrement aperçu le Martin Pêcheur.
Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu.
Donc c'est, pour moi c'est un peu ma méthode hein, pour le recenser parce que le martin pêcheur bon, bah, il est très discret dans la végétation des berges de Seine. Mais en général, quand il va prendre son envol, il va toujours faire un petit cri et c'est comme ça qu'on il se trahit à lui-même. Quoi, bah.
Ah, j'ai entendu une hirondelle là.
Ça c'est des hirondelles. L'hirondelle de fenêtre. Je pense qu'elle niche. Un collègue m'a dit qu'il y avait une colonie en fait à côté de la gare. À vol d'oiseau, c'est pas très loin, donc à mon avis, ça doit être les individus de la colonie. Faut mettre ta tête noire, là, qui vient de chanter. Alors, là, il y a le troglodyte. Et là, ce chant peu mélodieux, c'était la fauvette à tête noire. Voilà. Donc, qui est une très bonne imitatrice aussi. Alors, les cormorans, en fait, donc on en a toute l'année,
ouais.
Les cormorans. Et sur l'île Saint-Denis, il est réputé pour être une espèce hivernante. Et donc c'est une espèce migratrice hein, qui va manger les cours d'eau et le littoral de manière générale. Et nous on a des rassemblements, c'est ce qu'on appelle des rassemblements hivernaux. Et c'est notamment dans ce contexte qu'ils utilisent le site de l'île Saint-Denis. Quoi, bah.
Ouais, justement, parce que cet hiver ils étaient déjà plus là.
Ils étaient plus là cet
ouais,
hiver
ouais.
Bah, y a peut-être eu de l'effarouchement et c'est possible. D'accord. Que ça soit avec le projet Green Dock.
Mmh,
que je sais que j'ai entendu parler qu'ils avaient mis en place des dispositifs d'effarouchement pour éviter que les oiseaux en fait reviennent dans les bâtiments qu'ils allaient casser. Donc voilà. Et ça, c'est considéré comme une mesure d'évitement sur la réglementation. C'est scandale, quoi. On effarouille des impôts pour pas qu'ils s'installent. Et on dit qu'on évite leur destruction. Donc on fait tout pour qu'ils se cassent. C'est quand même assez scandale.
On résilie le bail avant la destruction.
C'est ça.
Ici, on est quand même sur un endroit assez important. Alors pourquoi ? Parce qu'on est vraiment sur la berge, en fait. La berge du fleuve. Et on a vraiment la végétation qui est propre à la ripisylve, au bord de Seine, au bord d'un cours d'eau. Là, on a du saule ici. D'ailleurs, vous voyez le saule, j'ai l'impression qu'il est bien envahi. Hein. Il a bien été mangé, là, vous voyez. C'est une bonne question.
Des chenilles. Là.
Voilà, des chenilles. On voit bien encore les... Alors, je sais pas si c'est les processionnaires. Processionnaires du saule.
Ah non, c'est pas ça.
Ouais. Ah non, je pense pas.
Ouais,
ça doit être une pyrale, mais...
Parce qu'en face, on s'est baladé hier et il y en avait dans les pins, ils mettent des pièges.
C'est très spécifique. Ça attaque qu'une seule plante haute. Et là, le saule, je vous avoue, je sais pas, mais... Mais ça donne envie de se renseigner. En tout cas, j'ai l'impression,
il y a
pas mal d'oiseaux là dans les arbres. Là, on en voit un aussi. Là.
Ouais, il y en a un là-bas. Mais...
Alors ça, c'est une mésange à longue queue, on dirait. Mésange à longue queue qui doivent certainement se nourrir, en fait.
Des chenilles.
Oui. On a entendu un plongeon. Et donc là, vous voyez, on voit vraiment toutes les petites mésanges ici, là. Et les mésanges, elles sont là parce que... Il y a les chenilles. Les chenilles, elles sont là parce qu'il y a de la végétation. Et la végétation, elle est là parce qu'on n'a pas artificialisé le milieu. Donc, stop à Green Dock. Allez, bon, on avance, ça vous va ? Nous y voilà, là, au bord de Seine. J'ai une petite libellule, là, dans mon filet. On pourra la regarder. Et moi, je trouve ça vachement intéressant, ici. Alors, certes, on est sur de la dalle, là, bien artificielle. Mais en fait, on a vraiment ici, vous savez ce que c'est là, ces grands plumeaux là qu'on voit ? Du roseau. C'est un début de réponse, j'avoue. Mais c'est pas forcément exactement du roseau. Est-ce que vous avez. C'est du roseau phragmite, Phragmites australis. En fait, on l'appelle communément roseau phragmite. Ces roseaux, ils sont vachement importants, particulièrement justement pour les libellules, pour tout un tas d'insectes. Pour un tas aussi d'oiseaux d'eau, les canards, etc. Ça ne m'étonne pas qu'ils étaient vers les roseaux, hein. Ils aiment bien ça. Ça fait des roselières. Alors c'est peut-être aussi ça un petit peu qu'on dit abusivement finalement roseaux en fait. Parce que les roselières, c'est des habitats déterminants et qui sont protégés la plupart du temps. Ouais. Bon là, à mon avis, il y en a un peu trop peu pour dire que c'est une roselière et tout ça, mais il y a carrément des roselières par exemple sur des bords de lac qui bordent vraiment le lac sur parfois ça peut être 10 mètres quoi, pas plus et qui sont protégées avec des habitats, des zones protégées, par exemple des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, etc. Et donc ici on a une libellule. Ça choque personne que je la prenne dans les mains. Je lui fais pas de mal, hein. Après on la laissera repartir. Ça va ? Tout va bien ? Donc ici, est-ce que vous connaissez un peu les libellules ? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ou pas ? Est-ce que ça parle un peu ? Ah oui, allez-y, je vous écoute. Non, c'était pas... Oui, voilà, effectivement, c'est une demoiselle. Donc chez les libellules, on a deux sous-ordres. Ça va être du coup les demoiselles et les libellules en gros, hein. Donc les anisoptères et les zygoptères. Là ici c'est un zygoptère, une demoiselle. Donc elles sont beaucoup plus petites, avec les ailes toujours repliées sur le dos au repos, vous voyez ici. Là elle est au repos, avec les ailes repliées sur le dos ici. Bon là elle s'envole. Voilà. Mais en gros c'est comme ça. Et donc ici on a le mâle et la femelle. on a ce qu'on appelle, c'est un peu genre la libellule jurassique par excellence, c'est l'une des plus vieilles libellules qu'on connaît en France, c'est le Caloptérix. Et après, en fonction de l'espèce, donc il y a différentes espèces de Caloptérix, il faut regarder plusieurs critères. Donc on va regarder les appareils sexuels, les pièces sexuelles, qui sont à l'arrière, là au niveau ici des cercoïdes, et sur le segment numéro 1 de la libellule de son abdomen. Voilà. Et en gros, du coup, voilà, il y a une pièce qui lui sert à s'accrocher et une autre à s'accoupler. À sa partenaire, voilà. Autre critère encore, c'est que ici là, on a des petits points blancs sur l'angle des ailes de la femelle.
Ah oui.
Je sais pas si tout le monde voit. Voilà. On a des petits points blancs quand on regarde au jour là comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle des ptérostigmas. Et sur le mâle, il y en a pas.
Et puis les ailes sont.
Et les ailes, effectivement, sont plutôt fumées bleues pour le mâle. Oh, bah elle est déjà partie. Voilà, moi, je sais que ça, c'est une espèce qui est commune. C'est Caloptérix virgo, le Caloptérix vierge, petit cormoran.
Il y a un héron là-dedans.
En face.
Et bien vu, le héron sans doute. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de moi. Hein,
pour les oiseaux.
Et là, on est.
C'est gros.
Voilà.
C'est un cormoran.
Alors celui qui vole là-haut, c'est cormoran.
Retour avec l'autre.
Voilà. Et là-bas, on a un héron cendré. Avec, on entend aussi de par là-bas, on entend un rossignol. J'ai entendu un petit peu, mais là on l'entend plus. Donc bah, là encore, hein, vraiment, on retrouve voilà un milieu qui est favorable justement aux oiseaux. Ils vont pouvoir venir se cacher. On a un espace qui est touffu, qui est pas géré. Et ça, c'est vachement recherché en fait aujourd'hui en Île-de-France de manière générale. On est souvent là à essayer de gérer les espaces, à tondre un maximum les zones de parc, etc. Ça, c'est vachement sauvage déjà et c'est bien. Est-ce que ça va toujours?
Oui.
Ouais. Super. Donc oui, je disais. C'est pas mal d'être par ici. Moi, j'aime bien m'arrêter ici parce que ça permet de parler d'un tas de choses, particulièrement qui font référence aussi aux derniers inventaires qu'on avait réalisés, les inventaires flash, où on s'est intéressé. Belle place de chant, hein. Il a bien choisi. Oui. Voilà. Donc ça, vous savez ce que c'est?
Non.
Troglodyte. Ça pourrait, surtout qu'il aime bien imiter certains oiseaux. Là, c'est du rossignol,
ouais,
c'est le rossignol philomèle. Un beau rossignol. Donc, j'aime bien ici parler, une mouette là-bas, parler des inventaires. En fait, on a mené des inventaires à la fois sur les oiseaux, mais aussi sur les chauves-souris. Et quand on a des ponts comme ça avec de la pierre, etc., là c'est pas très favorable, mais en fait les ponts souvent peuvent abriter justement des chauves-souris. C'est pas négligeable, il faut toujours s'arrêter dessous, regarder. Et vous verrez que ouais.
On peut l'arrêter, il y a les cubitons.
Et vous verrez en fait que pile sous le pont autoroutier. Là, on a un nid de faucons cresserelles. On a aussi des gîtes à chiroptères, des chauves-souris qui doivent gîter vraiment sous le pont autoroutier, dans des fissures, etc., dans des infractuosités, et qui doivent être par là-bas, ouais. C'est le soir, en fait, où on a mené nos inventaires chauves-souris, en fait, on était allé donc jusqu'au pont autoroutier, et il pleuvait. Donc clairement, pluie et chauves-souris qui sortent la nuit, c'est pas du tout un bon ménage, pour la simple et bonne raison qu'en fait la pluie qui tombe par terre, ça crée des ultrasons, forcément ensuite qui vont dans les oreilles des chauves-souris et qui sont hyper dérangeants. et qui les empêche en fait déjà de se nourrir parce que y a pas beaucoup d'insectes la nuit quand il pleut, et en plus de ça de bien repérer justement leur proie. Mais là elles étaient vraiment sous le pont et elles chassaient sous le pont avec les insectes qui volaient dans le coin, et c'était sympa. Voilà, mais on verra la configuration, mais peut-être que vous connaissez déjà. Les ponts comme ça, c'est important. On a encore de la végétation, donc c'est aussi favorable justement pour les chauves-souris.
Moi, ce que j'ai pu retenir un peu de cette visite naturaliste, c'est un peu étrange, parce que d'un côté, on est effectivement dans un espace qui est assez, assez vert en Île-de-France, le long des berges de Seine, c'est pas désagréable. Mais ce qu'on a vu, je suis pas très très bon naturaliste, mais ça reste des choses qui sont assez communes. On n'a pas vu d'espèces rares, peu d'espèces protégées, c'est plutôt des saules, des martins pêcheurs, des choses qui sont très chouettes, mais qui sont pas une nature très rare, quoi. Alors du coup, c'est quoi l'enjeu qu'il y a à protéger ceci, qui ne serait pas forcément protégé ailleurs? En vérité, on aurait été, je pense, dans une forêt centenaire ou dans les Alpes, on serait peut-être même pas arrêté. Et du coup, c'est quoi qui fait cet enjeu ici de ce qu'on a pu voir dans cette balade naturaliste?
Nous, en fait, ce qui est aussi très intéressant, en fait, c'est vrai, hein, comme tu l'as dit, et comme en fait aussi beaucoup de personnes peuvent le penser, on a une nature qui est assez banale, dans un contexte quand même très urbain, mais c'est quand même un lieu qu'on se doit en fait de restaurer, de conserver, parce que on est en milieu urbain. Les milieux urbains, c'est la néfaste de manière générale pour la nature. Et nous, on a quand même observé, on a observé aussi des espèces qui sont protégées. Et notamment, en fait, ici, on est en face d'un site Natura 2000 qui est censé avoir une protection à l'échelle européenne. Et on a vu des espèces qui sont ciblées, en fait, par la protection réglementaire européenne du site Natura 2000. Notamment le martin pêcheur, qui est inscrit sur la liste de la directive oiseaux, et les sternes pierre-garin. Et que là, en plus, on est aussi en pleine période de nidification. Les martins pêcheurs, on a vu des couples, donc c'est qui nichent en plus sur le site Natura 2000. Et la sterne pierre-garin, on a vu des couples. Elles utilisent le corridor écologique de la Seine pour s'alimenter. Elles nichent potentiellement dans le parc de Lille. Moi, je ne suis pas allé voir cette année où est-ce qu'elles sont allées nicher, mais elles nichent dans le coin. Et en fait, le problème, c'est qu'on même dans des habitats qu'on peut dire entre guillemets banals, on est en train de détruire la nature. Là, on va faire un projet d'entrepôt qui est quand même juste en face dans cette Natura 2000. Normalement, il y a des études d'impact qui sont censées être faites et des mesures d'incidence Natura 2000 complémentaires. Et ce qui n'a pas été fait. Et puis, en fait, juste au regard du positionnement du projet et de l'activité qu'il va avoir en phase d'activité, il y aura du bruit, de la lumière, des vibrations non-stop, juste en face de cet espace protégé. Et en fait, c'est aussi sur nous, c'est vraiment ça qu'on critique, en fait.
C'est quoi le risque? C'est que, à terme, cette zone Natura 2000, elle soit complètement isolée d'une zone urbaine très, très dense, qui fait qu'elle serait un point isolé, totalement déconnecté du reste?
En fait, ça reflète un point important ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est vrai que un des grands problèmes aussi de la destruction de la nature, c'est la fragmentation des habitats, qui est une des premières causes d'extinction de la biodiversité. Là, on a un îlot de nature qui est juste ici et qui est très enclavé au reste des corridors écologiques. Et là, en gros, c'est un projet juste en face d'un sanctuaire de biodiversité qui va être actif 24 heures sur 24. Il va y avoir des vibrations, de la lumière, du bruit, du dérangement en face de cet îlot de nature. Et c'est ça ce qui est scandaleux, et c'est aussi le côté greenwashing qui est mis en avant. On va faire des petites mesures, on va installer des nichoirs, faire un petit jardin, ça va être un écolieu, alors que c'est complètement sidérant de dire ça, alors qu'on fait un énorme projet d'entrepôt logistique qui va nourrir Amazon et compagnie, littéralement, juste en face de cet espace de nature, qui va être actif 24 heures sur 24, et ça, c'est scandaleux par rapport, ne serait-ce juste à l'effarouchement, au dérangement des espèces qui s'y abritent, quoi.
J'ajouterais deux choses. Il y a des espèces aussi qui sont protégées, on le disait, au niveau européen, mais aussi là au niveau français, traduit dans le droit français, avec tout simplement des espèces qu'on a aperçues aujourd'hui, hein, comme le martin pêcheur.
Qui sont communes mais protégées, en fait, c'est ça, parce que c'est des bons indicateurs.
En Île-de-France, on ne peut pas, je pense, considérer le martin pêcheur comme étant si commun que ça. Mais après, oui, en effet, des espèces communes mais protégées, les mésanges, mésanges charbonnières, mésanges bleues, qui sont protégées et qui sont communes. Mais d'un autre côté, si elles sont protégées, je pense qu'il y a aussi vraiment une idée derrière, c'est aussi qu'il faut préserver leur habitat, en fait. Aujourd'hui, par exemple, la mésange charbonnière, c'est clairement une espèce... En gros, plutôt pour un habitat forestier, voilà, elle est plutôt spécialisée là-dessus. Bon, bah, ça veut dire que quoi, en ville, on tient compte de ces espèces communes mais protégées pour la simple et bonne raison qu'il nous faut ces habitats qu'elles aiment. Particulièrement parce qu'il nous faut des arbres, il nous faut de la fraîcheur, il nous faut lutter contre le dérèglement climatique, il nous faut de la végétation, c'est important aussi pour le bien-être des habitants. On est ici, on a cette particularité-là vraiment d'être en limite avec, avec Paris, la ville de Paris. Donc on est l'un des derniers, on va dire un peu poumon vert là ici, avant Paris. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais aborder, donc voir un petit peu les habitats de manière globale à l'échelle de l'agglomération parisienne. C'est que ici on est vraiment sur les bords de Seine, avec la pointe de l'île Saint-Denis qui est aujourd'hui interdite au public, qui est, c'est pour une raison quand même, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour éviter de déranger, c'est pour éviter justement et permettre en fait vraiment la nidification de tout un tas d'espèces. Forcément, on est en pleine agglomération parisienne, en plein milieu urbain, donc toutes les espèces vont avoir tendance à vraiment se regrouper sur ce genre d'espaces naturels qui sont calmes et sereins, où ils vont pouvoir se reposer, en fait, où les espèces toutes espèces confondues vont pouvoir venir se rassembler et se reposer. Mais en plus de ça, on est sur un corridor écologique, un corridor biologique où en fait il y a des espèces qui vont vraiment passer, qui vont migrer, etc. Ça va être le cas avec l'avifaune particulièrement. Et qu'on va venir dégrader ce corridor en intégrant le projet Green Dock, des grands entrepôts de 35 mètres de haut, etc., en faisant une partie de barrière écologique, hein, parce que là, ça va être quand même un mur sur 600 mètres. Hein. Donc, ça va participer à la dégradation de ce corridor qui est réalisé en pas japonais, avec le bois de Boulogne qui est pas très loin, ici, la pointe de l'île Saint-Denis, le parc des Chantraines, la Seine, tout ça, c'est voilà, un corridor qu'on appelle en pas japonais, et qui peut aller encore plus loin, même peut-être jusqu'au bois de Vincennes, avec... tout ça. Et donc, aujourd'hui, que nous disent les schémas, le SRCE, le schéma de régional de cohérence écologique, c'est qu'il faut préserver ces milieux le plus possible, de les restaurer. Et là, en fait, on fait tout le contraire.
Donc, en fait, c'est vraiment la zone, pas tant pour les espèces qui sont présentes, même si elles sont importantes, que sa fonction écologique au sein de l'Île-de-France. C'est ça le truc, quoi. Que Green Dock mettrait en péril, quoi.
Ouais, exactement. Et il faut se rappeler que là, on met en péril tout ça, qui est plutôt rare quand même en région Île-de-France. Et en tout cas dans l'agglomération parisienne, ça c'est sûr. Et on le met en péril pour de la logistique, en fait.
Merci à vous pour cette balade. C'était très chouette de découvrir cet endroit et d'avoir une explication de cette zone dans sa fonction écologique en Île-de-France. Merci bien.
Merci d'avoir.
C'était Zoom Écologie. Nous étions donc dans cette manifestation contre Green Dock, le projet donc de logistique à Genevieve. Donc j'espère que vous avez désormais toutes les pièces pour comprendre à quel point il est tout à fait il faut lutter contre, voilà, tout à fait nuisible. Quelques éléments ont été donnés dans cette émission qu'on va répéter. La première donc c'est la fête de l'eau qui est organisée ce week-end, samedi 1er juin à Compiègne, contre le projet Seine, de canal Seine-Nord, qui est en fait un projet donc, qui fait partie de la logistique et donc qui est plus ou moins associé à Green Dock et en tout cas au projet de l'axe Seine dont le port de Gennevilliers est une des débouchés. Et aussi, plus largement, porté par les soulèvements de la terre, le village de l'eau, qui est un nouvel épisode de la lutte contre les bassines qui serait donc qui sera du 14 au 21 juillet dans l'ouest de la France. Et ce village de l'eau est associé à des convois de l'eau qui partiraient dans le début de la semaine du 14 juillet en direction de ce village de l'eau qui est donc voilà, une semaine de mobilisation contre les méga-bassines. Eh bien, on vous laisse avec Musique Antille et on vous dit à la semaine prochaine sur Zoom Écologie, sur Fréquence Paris Pluriel.
Life for your son and everyone you love. This ain't no spray tan or reverse vitiligo. It's my permanent skin that I didn't decide on. Shit is like a vicious cycle, so how can a nigga let bygones be bygones? Watch Watermelon Man with Godfrey Cambridge. Put the fucking sunglasses on like they live. Time moves on but manage to stay still. So suck Satan's dick with that mouth full of bullshit. Yeah, we gon' make sure these niggas don't have shit. As long as this country's called America. The Klan threw a Molotov at a black church and sped off with the back tires blasting out dirt. Type of shit that they did in the 60s, oh it's the 2000s now. Gotta convince me they do lynchings through the media now. You know, slander, assassination of character. So much blood been spilled over America, they should take the Constitution to tear it up. It don't mean shit, some say it does. To me the flag look like a Kanye shrug. They say if you don't like it, go back to Africa. But ignorance is a worldwide epidemic, so taking that suggestion really won't end it.
Yeah.
Plus folks didn't die, so I could quit trying at the drop of a dime. Go backwards in time while you capitalize. Nah. Oh, look what we got here. We got our little righteous nigger. Okay, nigger calls himself the Koreatown oddity. This nigger don't look Korean to me. Nigger look like a nigger. Well, I'll tell you what, we gon' string this nigger up like a Mexican pinata.
La 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 la. America, oh America, don't you want to go to America?
Si tu trouves que ce jingle est faux, c'est la méga radio.
Radio.
C'est le jingle vocal à la con
méga,
de la
méga, 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 méga radio. solteira, agora que sou solteira.
Tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Et à tous, c'est jeudi, c'est Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM. Ce soir, on parle du nucléaire alors que le gouvernement continue sur sa lancée de relance et annonce la mise en route de l'EPR de Flamanville. Avant, un reportage sur la manif contre le démarrage de l'EPR et la fusion entre l'autorité de sûreté nucléaire et l'IRSN qui s'est tenue le 24 mars dernier à Caen, la capitale de la Normandie. On va vous faire un petit rappel en son sur c'est quoi l'EPR. On en a pour quelques petites minutes. C'est parti.
2006. C'est ici, face à la mer à Flamanville, que doit être implanté le premier réacteur européen à eau sous pression. Le terrain est même déjà prêt. L'EPR, dont la construction doit démarrer l'an prochain, est en fait un outil de transition. L'objectif et de remplacer entre 2015 et 2025 les 58 réacteurs nucléaires actuels qui seront en fin de vie. L'EPR a trois qualités selon ses promoteurs, consomme 15% d'énergie en moins, est présumé plus sûr et rejette moins de déchets radioactifs. Il a aussi un coût, 3 milliards d'euros.
2007.
À Flamanville, dans la Manche, une dizaine de militants de Greenpeace sont toujours ce soir perchés sur des grues sur le site du chantier de l'EPR, le futur réacteur nucléaire de troisième génération. Un peu plus tôt dans la journée, une quinzaine de militants avaient été interpellés par les gendarmes. Cette action spectaculaire est destinée à interpeller les deux derniers candidats à l'Élysée.
2013.
Voici Big Benny, la plus grande grue du monde. Pilotée par ordinateur, elle soulève une pièce de 260 tonnes, grande comme 6 terrains de tennis. le dôme du futur réacteur nucléaire de troisième génération, construit à Flamanville, dans la Manche. L'an dernier, des malfaçons ont été découvertes sur certaines pièces du réacteur. L'entreprise a dû tout reprendre à zéro, avec à la clé une mise en marche programmée fin 2016, soit 4 années de retard minimisées par le PDG d'EDF.
Voyons le verre moitié plein, si vous le voulez bien. Alors, il y a pris du retard, on l'avait annoncé. Il n'y a pas de dérapage ni dans le coût, ni dans le délai, par rapport à ce qui a été dit par le groupe.
Les associations anti-nucléaires ont dénoncé une opération de communication d'EDF et un chantier au coût exorbitant, estimé à 8,5 milliards d'euros.
2022.
Après 15 années d'un chantier interminable, EDF affiche en grand ses ambitions. Dernière ligne droite, comme un mantra, pour encourager les 3000 salariés encore présents sur le site. Dans la salle des machines, la turbine de 1650 MW, la plus puissante jamais construite en France, est, elle, déjà totalement achevée.
L'ensemble des équipes de Flamanville aujourd'hui sont bien alignées